VOA Afrique, les infos. À Washington.
Cher Robin Dorsil, qui vous remercie de votre fidélité. Dans moins de 10 minutes, notre magazine hebdomadaire Sahel Plus, préparé et présenté par Claire Morin-Gibourg. Mais en attendant, voici un résumé des principales nouvelles du monde. Des attaques djihadistes ont secoué plusieurs villes du nord-est du Nigeria aujourd'hui. Un attentat s'est produit dans une mosquée de Yola, la capitale de l'état d'Adamawa, au moment de la prière. Pour l'heure, aucun bilan n'est disponible, mais les secours font d'ores et déjà état de dizaines de victimes. Cette explosion survient suite à un autre attentat dans une mosquée ce même vendredi. Un kamikaze a tué 28 personnes à Maïdougouri, fief historique des islamistes de Boko Haram, dans l'état de Borno, Salwa Jafari.
L'attaque a été menée peu après 4h GMT lors de la première prière du matin par un assaillant solitaire, mais les témoins ont fait état de deux explosions. Au moins 20 personnes ont été blessées. Deux hommes auraient été arrêtés et remis à la police après avoir célébré l'attentat. Ils se tenaient à l'écart et se congratulaient en lançant « Allahu Akbar, Dieu est grand », selon deux témoins. Cette attaque est la sixième depuis début octobre qui frappe Maïdougouri, où Boko Haram a vu le jour en 2002 avant de déclencher une insurrection en 2009. Au moins 76 personnes ont été tuées dans des attentats dans cette ville, capitale de l'état de Borno, dans l'extrême nord-est du Nigeria, frontalier du Niger, du Tchad et du Cameroun, où Boko Haram frappe également régulièrement. Malgré la récurrence de ces attentats, l'armée nigérienne a revendiqué une série de succès contre Boko Haram. Elle dit avoir repris de vastes territoires saisis par les militants l'année dernière. Des officiers supérieurs ont même caractérisé l'augmentation des attentats suicide contre des cibles faciles, selon eux, comme un signe de désespoir du groupe. Le président Muhammadu Buhari a promis de mettre fin d'ici la fin de l'année à une insurrection qui aura duré 6 ans. Boko Haram a fauché la vie d'un peu moins de 17 000 personnes et a fait plus de 2,5 millions de déplacés.
La secte islamiste Boko Haram s'est également emparée brièvement d'une ville dans l'extrême nord du Cameroun. L'organisation djihadiste a fait une incursion à Kerawa ce matin. C'est ce que rapporte l'AFP, citant des sources camerounaises. Des civils auraient été tués. L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, c'est dans 2 jours. La campagne électorale prend donc fin ce soir. Les rues d'Abidjan étaient particulièrement animées ce vendredi après-midi. Les partisans du président sortant, Alassane Dramano Ouattara, étaient réunis pour assister à son meeting. C'est dans ce contexte que Charles Konambani, le candidat indépendant du CNC, a retiré sa candidature. Il faut dire que depuis le début de la campagne, l'ancien Premier ministre ne cesse de dénoncer des irrégularités dans l'organisation de l'élection. RDC, après la démission de l'abbé Apollinaire Malumalu de la présidence de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, les confessions religieuses ont proposé Corneille Nanga, actuel secrétaire exécutif national adjoint de l'organisation, pour lui succéder. Ce dernier a été proposé par 7 des 8 confessions religieuses, car l'Église catholique n'a pas voulu cautionner ce vote. Selon elle, il n'y a pas eu de débat ni de vote autour de cette candidature. C'est ce qu'a expliqué l'abbé Léonard Santédi, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, qui a pris part aux discussions.
C'est comme si il y a eu en amont déjà un candidat retenu par 7 confessions religieuses. Dès lors, comment procéder à un vote ou à une élection parmi 8 partenaires si 7 ont déjà un seul candidat? Et donc c'est pour nous un peu l'histoire qui se répète, hein, la désignation de notre frère l'abbé Malumalu. Et donc pour nous, nous avions voulu qu'on échange sur ces principes de neutralité et d'indépendance pour arriver à un choix qui soit vraiment le choix des confessions religieuses qui ont échangé à toutes les confessions religieuses. Ce qui fait que l'Église catholique assume sa responsabilité devant la nation, devant l'histoire et ne participe pas à ce qui paraît comme une parodie des désignations par les confessions religieuses, mais qui n'en est pas une.
L'abbé Léonard Santédi. En Afrique du Sud, le mouvement de protestation des étudiants commence à porter des fruits. Cet après-midi, le président sud-africain Jacob Zuma a annoncé qu'il annulait l'augmentation des frais de scolarité des universités pour l'année 2016. Décision qui fait suite aux heurts entre certains étudiants et la police de Pretoria, Dilidiko.
Dans une allocution télévisée, le président Jacob Zuma a annoncé qu'il n'y aurait aucune augmentation de frais de scolarité en 2016. La mesure fait suite à des pourparlers entre le gouvernement et les leaders de la contestation. Il a aussi indiqué que les discussions se poursuivront sur des problèmes plus larges que les frais de scolarité. De nombreux problèmes ont été soulevés et devront être suivis, comme l'éducation gratuite, l'indépendance des universités et le racisme. Cette annonce va permettre de débloquer la situation dans les universités sud-africaines paralysées depuis le début du mouvement. Dans la matinée, avant l'annulation de l'augmentation des frais de scolarité, la manifestation des étudiants s'est déroulée au départ sans incident. Mais le rassemblement a dégénéré lorsque quelques étudiants, parmi les milliers sur place, ont jeté des pierres sur les policiers et mis le feu à des toilettes mobiles sur la pelouse de Union Buildings.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le secrétaire d'État américain John Kerry a annoncé un sommet sur la Syrie la semaine prochaine. C'est la principale résolution après une rencontre à Vienne en Autriche entre le chef de la diplomatie américaine et son homologue russe Sergueï Lavrov. Jean-Roger Bion.
La rencontre de la semaine à venir vise à intensifier les efforts pour parvenir à un règlement politique du long et sanglant conflit en Syrie, où les États-Unis et la Russie ont des positions antagoniques. Kerry et Lavrov auront essayé d'emblée de trouver un terrain d'entente entre Washington et Moscou aujourd'hui dans leur discussion sur l'avenir politique de la Syrie. Les deux hommes se sont serrés la main, sans plus, devant les caméras, avant que le secrétaire d'État américain ne vienne annoncer la réunion de la semaine prochaine aux correspondants de presse voyageant avec lui. De l'autre côté, le ministre jordanien des Affaires étrangères Nasser Judeh et le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov ont fait savoir que la Russie et la Jordanie ont convenu de coordonner leurs actions militaires en Syrie, y compris dans les campagnes aériennes. John Kerry, quant à lui, poursuit ses consultations, notamment avec des responsables jordaniens et avec le dirigeant palestinien Mahmoud Abbas. La rencontre Kerry-Lavrov à Vienne a impliqué également des représentants de la Turquie et de l'Arabie saoudite.
Il faut ajouter que la Russie est favorable au lancement de pourparlers sur un règlement politique du conflit syrien, incluant le gouvernement de Bachar al-Assad et le spectre complet de l'opposition syrienne, a déclaré à Vienne Sergueï Lavrov. Des milliers de Palestiniens ont afflué ce vendredi sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem, ouverte par Israël sans restriction pour la première fois depuis des semaines, dans un geste d'apaisement. Mais des heurts violents ont fait plus de 80 blessés en Cisjordanie et à Gaza, rapporte l'agence France-Presse. À Gaza, des jeunes lanceurs de pierres palestiniens ont affronté les soldats israéliens près de la barrière de sécurité qui enferme ce territoire. Ces derniers ont riposté par des tirs qui ont fait 65 blessés, dont 3 journalistes et 4 secouristes, selon des sources médicales palestiniennes. En Cisjordanie occupée par Israël, des heurts violents ont également opposé de jeunes Palestiniens à l'armée israélienne, notamment près de Hébron. 20 Palestiniens ont été blessés par les tirs israéliens, selon les secours palestiniens. Le président américain Barack Obama a nommé ce vendredi Brett McGurk, un expert de l'Irak, nouvel émissaire pour coordonner la campagne contre le groupe État islamique. Selon le communiqué de la Maison-Blanche, M. McGurk a longtemps été l'un des meilleurs conseillers du président sur l'Irak. Brett McGurk succède au général John Allen qui quitte son poste après une année marquée par une série de revers significatifs. Hier, un Américain est mort au combat lors de l'assaut d'une prison de Daesh d'où ont été libérés 70 otages. C'est d'ailleurs le premier Américain mort au combat en Irak depuis 2011. Nouveau bilan dans la tragédie du Hajj. Cette année, au moins 2236 étrangers sont morts dans la bousculade au pèlerinage de la Mecque le 24 septembre, ce qui en fait la catastrophe la plus meurtrière de l'histoire moderne du Hajj, selon les chiffres officiels donnés par 35 pays. D'après un décompte de l'AFP, l'Iran enregistre le plus grand nombre de victimes, soit 464, devant le Mali, 282. Le nombre de pèlerins tués a quasiment triplé par rapport au bilan officiel fourni par les autorités saoudiennes, un bilan de 769 morts seulement, qui remonte au 26 septembre. Et l'ouragan le plus puissant de la saison menace la côte pacifique du Mexique. Patricia, de catégorie 5, devait toucher terre ce soir dans le sud-ouest du pays où les autorités s'attendent à des dégâts catastrophiques. Selon les météorologues, la tempête s'accompagne de vents de près de 325 km/h et déversera jusqu'à 30 cm de pluie, voire 50 cm dans les régions isolées. Le gouvernement mexicain a décrété l'état d'urgence dans des dizaines de municipalités. Nouvelles du Monde, Washington, chez Robert Dorsil.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Et tout de suite,